Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On démarre ce matin une série intitulée « Territoires sans ménagement ». On y croisera des zones protégées, des parcs nationaux, de fortes poussées d'entrepôts, pas mal de métaux lourds, et aussi quelques lois, votées par l'Assemblée nationale pour encadrer tout ça. Et pour commencer, un extrait de « Inchiesta », diffusé le 24 septembre dernier sur FR3 Corse. Un débat qui réunissait opposants et partisans de la réforme de la loi littorale.
Alors le futur PADUC apparaît plus protecteur, a priori, en termes de superficie. 1300 hectares supplémentaires sont protégés. Marie-France, vous avez précisément choisi de vous intéresser à ces espaces aussi remarquables que convoités, des espaces qui sont en proie à la spéculation. Avant toute chose, quels sont les critères qui font qu'une zone littorale est remarquable ou ne l'est pas?
Alors en fait, on dit qu'un espace est remarquable et caractéristique, selon les termes de la loi, parce qu'il maintient les équilibres écologiques et qu'il présente un intérêt paysager et ou un intérêt biologique. Alors, ce sont des milieux qui abritent des plantes rares, qui accueillent des oiseaux protégés. La loi littorale en cite explicitement quelques-uns, les pointes, les falaises, les deltas, les dunes, les marais. Donc, quelque part, il y a un aspect prodigieux, exceptionnel. Mais en revanche, la loi identifie aussi, et c'est moins clair, les espaces caractéristiques du patrimoine naturel. Alors, ces espaces, ils ont été listés par les scientifiques du muséum entre 2002 et 2004. Cet atlas a servi de base aux équipes de l'agence de l'urbanisme que dirige Maria Guidicelli. A priori, ils seront maintenus. Il devrait y en avoir 67 000 hectares classés remarquables, sanctuarisés, on va dire, de façon ferme et définitive, inconstructible. Alors, je précise que tous ces espaces remarquables ne sont pas, ou tout au moins ne sont plus, l'objet de spéculations ou soumis à des projets urbanistiques. Par exemple, les 18 000 hectares du Conservatoire du littoral. Il y en a beaucoup, ça va du Cap Corse à Bonifacio, ça représente 23% du linéaire côtier aujourd'hui. Nous avons tourné notre reportage dans certains sites du conservatoire. Ce sont parmi les plus beaux littoraux de Corse, donc on s'est plutôt régalé. Mais en même temps, on n'a pas toujours été aidés, parce qu'il y avait ou des maires, ou des propriétaires, ou des porteurs de projets qui ne souhaitaient pas du tout s'exprimer sur leurs projets. Nous sommes aussi allés dans des lieux qui ont perdu quelque part leur remarquabilité au fil des années. Alors on a essayé d'expliquer pourquoi. En clair, ben, ça a été délicat et ça reste sensible.
Vensolasca, au sud de Bastia. Cap sud, une plage bordée de genévriers, des arbustes à gros fruits, uniques en Europe, et du coup protégés de l'urbanisation. L'espace est classé remarquable depuis 2004, depuis l'Atlas, réalisé par les services de l'État.
C'est des genévriers otitiens, des gros fruits, peut-être qu'ils sont les seuls restants en Europe. Bon, ça, c'est un espace qui est remarquable, ça on peut le dire. Mais après, une forêt d'eucalyptus qui a été plantée il y a 50 ans pour faire du bois, considérer que c'est un espace remarquable, moi, je ne suis pas trop d'accord.
Et il va le faire savoir. Juin 2014, l'agence en charge du PADUC consulte les maires du littoral pour réviser cet atlas. Inchiesta vous emmène faire le tour des zones les plus belles, les plus prisées et celles qui risquent d'être déclassées.
Pierre-Laurent Santelli, on dit que la loi littorale est une des lois préférées des Français, qu'elle a été votée à l'unanimité en 1986, et tout le monde y voit une de ces lois qui véritablement protège l'environnement, les paysages. Pourquoi est-ce qu'en Corse, depuis quelque temps, il y a ces inquiétudes? Alors que cette loi existe et qu'elle est là pour protéger un littoral qui est particulièrement beau, on le sait, celui de la Corse.
Oui, effectivement, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité des parlementaires en 86. Des sondages réguliers montrent l'attachement des Français à cette loi. Pour autant, il y a un danger qui pèse sur cette loi, parce que même dernièrement, j'ai lu sur bon nombre d'articles qu'il y avait de nombreux élus qui voulaient réaménager cette loi pour permettre les constructions sur le littoral. On voit ça sur le littoral français, mais a fortiori ici, où les enjeux sont énormes, et c'est vrai que cette loi littorale en dérange plus d'un.
Pourquoi dites-vous que les enjeux sont énormes ?
On sait pertinemment, et notamment ici, qu'il y a une forte attractivité de ces terrains en bord de mer et que ce que la loi littorale ne permet pas de faire dérange bon nombre de promoteurs et de spéculateurs, puisqu'il faut les appeler ainsi.
Aujourd'hui, la situation, qu'est-ce que c'est ? Il y a le Conservatoire du Littoral qui a racheté bon nombre de terrains de bord de mer, d'autres qui appartiennent à des particuliers, à des collectivités.
Il faut savoir que aujourd'hui, grâce à cette protection qu'offre la loi Littoral et d'autres articles des lois d'urbanisme, des terrains n'ont pour toute valeur que leur beauté et n'ont pas de valeur marchande. Par le biais de déclassement, en enfreignant cette loi littorale, on voit des terrains qui, de 0 euro le mètre carré, passent par un simple trait de crayon, par une simple écriture, à des valeurs de 700, 800, 1000 euros le mètre carré sur des zones très convoitées. Et on a vu nombre de plans locaux d'urbanisme qui ont voulu rendre ces terrains-là d'inconstructibles à constructibles. Il y a les élus, bien entendu, mais ça serait un raccourci un peu trop facile, puisque même si les élus, que ce soit par pression, par volonté, par copinage, voudraient rendre ces terrains constructible, il y a un verrou normalement qui devrait être incontournable, c'est le contrôle de légalité de l'État et de ses services. Or, on voit bien, et on l'a vu dans les nombreux plans locaux d'urbanisme, que l'État et le préfet n'ont pas fait appliquer la loi. Et on a là un vrai questionnement à avoir par rapport à cette attitude de l'État en Corse qui pourrait, s'il effectuait son simple contrôle de légalité, mettre un frein justement à toutes ces dérives spéculatives sur ces terrains. Quand on parle de plans locaux d'urbanisme ou de cartes communales, c'est les documents d'ensemble qui régissent l'aménagement d'une commune. Donc il y a maintenant, de par la loi, une obligation faite aux communes de se doter d'un plan local d'urbanisme. Donc le maire et ses conseillers ont, sur leur commune, choisissent de rendre constructible ou pas constructible tel terrain ou pas tel autre, en définissant des zones là qui sont à conserver dans leur vocation agricole, d'autres dans leur vocation naturelle, et d'en mettre certains en zone U, donc, ou AU, zone à urbaniser ou zone urbanisable. Donc ils produisent leur document, et ce document, pour être validé, doit recevoir l'aval des services de l'État et, en dernier lieu, du préfet.
Qui donc doivent vérifier qu'il n'y a pas là de contradiction avec la loi littorale.
Voilà, le préfet est tenu de vérifier que les documents d'urbanisme, et notamment les zonages, sont en pleine conformité avec les lois d'urbanisme, avec tous les articles de loi, notamment la loi littorale, puisqu'on parle de ça, mais au-delà, de vérifier que les assainissements sont possibles. Donc, on a la volonté du maire, c'est une chose. Il veut rendre des terrains, admettons qu'il veuille par intérêt, par pression, suite à des pressions ou autres, rendre constructibles des terrains qui, au regard de la loi, ne le sont pas. Il fait ses zonages. Il dit, là, dans la bande des 100 mètres, moi, je veux y mettre un complexe immobilier.
Qu'est-ce que c'est que la bande des 100 mètres ?
Dans la loi littorale, c'est un des articles forts de protection, c'est qu'il est interdit de construire dans une bande de 100 mètres, donc du rivage jusqu'à l'intérieur des terres. C'est un endroit sacralisé. On ne peut y construire qu'en continuité de l'existant. Donc, on sait que c'est les endroits les plus recherchés, les plus convoités. Admettons qu'un maire, suite à des pressions, suite par intérêt, veuille rendre cette zone-là constructible et donner ça en main aux promoteurs immobiliers. Normalement, ça ne devrait pas passer le contrôle de légalité. Le premier verrou, qui est celui des services de l'État, qui devrait dire à ce maire, votre document d'urbanisme n'est pas conforme à la loi littorale, donc il convient de le réajuster et de supprimer ces zones-là qui sont rendues constructibles, illégales, et donc les retirer de votre plan local d'urbanisme.
Mais là, Pierre-Laurent Santelli, vous parlez au conditionnel. Vous dites « normalement, ça devrait ». Ça signifie
je dis
que... «
normalement, ça devrait », parce que ce n'est jamais ou très rarement le cas. Je veux faire un distinguo, là, entre les services de l'État. Je ne veux pas parler du petit agent qui, dans son bureau, fait le travail et le fait correctement, puisqu'on voit très souvent que à l'instruction, au premier niveau, ces agents-là ont fait un travail et on dit que ces zonages-là rendus constructibles sont illégaux au regard de la loi et qu'il convient de les retirer. Pour autant, dès que ça monte à l'étage supérieur, hiérarchiquement, ces mémoires et ces remarques sont très souvent, voire toujours, classé sans suite. Et on voit un plan local d'urbanisme, un document produit par les communes, qui va au bout de la logique et qui est produit, alors qu'il devrait s'arrêter au premier stade du contrôle de la légalité.
Donc là, on est toujours dans le cadre de la loi Littoral telle qu'elle existe, qu'elle a été votée à l'unanimité, rappelons-le, en 1986. Mais vous dites qu'il y a déjà des estafilades assez importantes, quoi.
Ben, il n'est que de voir, ce littoral, notamment dans l'extrême sud, où bon nombre de zones qui n'auraient jamais dû être loties, construites, des projets pharaoniques qui ont vu le jour, en complète illégalité avec cette loi Littorale. Et je veux rappeler ici le nombre de plans locaux d'urbanisme qui ont été annulé par le tribunal administratif, justement, à cause de ces illégalités à la loi Littorale et autres, puisque c'était vraiment presque caricatural. Il y en a eu l'année dernière 13 de ces plans locaux d'urbanisme qui ont été annulés par la justice, et non des moindres, hein, puisqu'on parle des communes de Porto Vecchio, de Sartène, pour Bonifacio, vraiment des grosses, grosses communes du sud et au-delà, pour des irrégularités à cette loi qui n'était pas à la marge, mais on traitait de 200, 300, 400 hectares livrés à l'urbanisation dans des zones pourtant qui devaient être protégées par cette loi. On voit bien l'ampleur du phénomène et, je le répète, tout cela n'a été permis que parce que le préfet, pour les raisons qui sont les siennes, mais on pourrait en débattre aussi, n'a pas fait son vrai travail du contrôle de la légalité, alors qu'il devait lui-même déférer ses documents devant le tribunal administratif, il ne l'a jamais fait.
Mais qui s'en est chargé ?
Ben, malheureusement, ce sont les associations qui sont obligées de faire le travail des services de l'État. Les associations de défense de l'environnement agréées sont le Levante, le Poulpe, le Garde, qui, je le répète, sont toutes des ABCDE sur Bonifacio, sont toutes des associations agréées, mais non subventionnées, aucune, donc qui sont dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, qui sont personnes publiques associées, au même titre que les chambres d'agriculture et d'autres organismes, qui peuvent participer à l'élaboration de ces PLU. Donc ces associations, quand l'État ne fait pas son travail, sont obligées elles-mêmes de déférer ces documents. Et sur tous les...
Ce qui entraîne des frais...
Qui entraîne des frais, du temps, des menaces, des pressions. Pour mémoire, toutes les actions intentées au tribunal administratif, que ce soit en appel ou même jusqu'à la fin des procédures, les associations n'ont jamais perdu une affaire devant le tribunal administratif.
Ça a entraîné la destruction des bâtiments illégaux ?
Justement, là aussi, c'est encore un autre niveau de lecture de la situation en Corse. Non seulement l'État ne fait pas son travail par en effectuant le contrôle de l'égalité qu'il doit mettre en œuvre, mais au-delà de ça, dès lors que ces PLU quand même arrivent à terme, bien qu'ils aient été annulés par le législateur devant les tribunaux, continuent de délivrer des permis de construire sur ces mêmes zonages, et même si sur des constructions qui sont illégales, pour lesquelles la destruction a été demandée et ordonnée par le tribunal, l'État ne met jamais en œuvre ces destructions. Donc c'est un peu le combat de Sisyphe qui pousse à pierre de manière perpétuelle, parce que même si au bout du bout de la procédure qui prend parfois 10 ans, les associations sont toujours gagnantes, entre-temps les projets sont sortis de terre et jamais on ne les détruit. Donc on voit bien la perversion du système.
Vous dites que vous faites l'objet de menaces lorsque vous vous attaquez à ces plans locaux d'urbanisme ?
Ben écoutez, il n'est que d'avoir conscience de l'échelle des enjeux. Hein. Je parlais tout à l'heure d'un simple trait de crayon sur une carte. On fait passer un terrain qui ne vaut rien. Je parle d'une valeur marchande, hein, économiquement. À des échelles, pour un hectare, des terrains qui se vendent 2, 3, 4 millions d'euros. Si vous y ajoutez un projet immobilier de grande envergure, des maisons qui se vendent à 20 millions d'euros pièce, faites un peu la multiplication, ça vous fait un euro million sur un simple trait de crayon. On mesure bien les enjeux et fatalement, ça génère des frustrations. Et oui, les pressions existent, les menaces aussi. Je pense qu'il y en a pour les maires aussi, pour tout le monde. Je crois que le grand banditisme l'a bien compris, hein, c'est le nouvel Eldorado, hein, puisque au lieu d'aller braquer des banques et de faire du trafic de drogue, en investissant ce champ d'action, il s'est d'un meilleur rapport et sans risque ou presque, hein, puisque je n'ai pas vu de condamnation ces dernières années pour ce genre de fait. Donc les enjeux sont énormes et pour en revenir au rôle ambigu de l'État, on a vu débarquer bon nombre de ministres, de conseillers qui font de la Corse un peu leur terrain favori, prédilection pour la campagne. Des ministres qui venaient ici fustiger les dérives mafieuses en disant clairement que le lien était établi entre la spéculation immobilière et foncière et ses dérives et ses voyous. Pour autant, alors qu'il leur suffirait d'exercer leur contrôle de légalité, de mettre ainsi un terme à ces spéculations, à ces dérives, ne le font pas. Donc on s'étonne un peu d'abord de ce double langage. Et le questionnement est pourquoi l'État laisse faire alors qu'il aurait le pouvoir d'empêcher tout cela.
Et puis question suivante, Pierre-Laurent Santelli, dans cette situation que vous décrivez qui est déjà assez complexe, pourquoi finalement vouloir modifier la loi puisque de toute façon elle n'est pas respectée ?
Mais exactement. D'abord,
c'est une question d'échelle, peut-être. Peut-être que ça.
C'est une question d'échelle, et malgré tout, malgré sa non-application, on voit que des zones ont été protégées, malgré toutes les dérives dont je viens de parler. Ça met un frein. Il y a quand même certains verrous, puisque bon nombre de permis de construire et bon nombre de zones ont été protégées à cause de cette loi. Pour autant, d'aucuns ça ne suffit pas à certains. Ils parlent de manière édulcorée et par euphémisme d'aménagement de la loi littorale, mais c'est la suppression pure et simple qu'ils veulent. Je vais prendre une parabole un peu simpliste. Demain matin, vous vous levez, vous arrivez à un feu rouge, vous n'avez pas envie de le respecter, vous le grillez. Ça relève de votre démarche individuelle et de votre responsabilité individuelle de citoyen, de personne. Si, lorsque vous vous présentez à ce même feu rouge, vous avez un quart de CRS, de gendarmes, vous avez un commissaire de police, vous avez un préfet, des caméras de vidéosurveillance, et que non seulement on vous laisse griller ce feu rouge, mais on vous encourage à le faire, et que vous n'avez aucune poursuite, et que vous multipliez par des dizaines et des dizaines de feux rouges comme ça, grillés tout au long de la journée, ça ne relève plus de votre responsabilité individuelle, mais le problème se déplace à un autre niveau. C'est ce qui se produit pour ces documents d'urbanisme.
Ce que vous dites, c'est que demain, ça ne sera plus illégal, si de fait la loi est révisée, ça ne sera plus illégal de construire.
Ben
n'importe
exactement,
où.
Et c'est ce que demandent beaucoup d'élus et beaucoup de promoteurs. Il y a des lobbies qui sont très puissants en Corse et qui actuellement sont à l'œuvre dans la phase finale d'élaboration du PADUC.
Qu'est-ce que c'est que le PADUC ?
Donc le PADUC, c'est le plan d'aménagement de développement durable de la Corse. C'est de par la décentralisation, la région Corse, mais au-delà, hein, les autres régions, ont la possibilité de produire un schéma territorial d'aménagement qui permet, pour ce qui est de l'application de la loi littorale, permet de définir et de mettre en œuvre quelles seront les orientations de développement et d'aménagement de la région. On est ici en phase d'élaboration de ce plan d'aménagement de développement durable de la Corse, qui sera voté en décembre 2014, à la fin de l'année. Donc, c'est un document qui est à l'élaboration depuis 2 ans maintenant sous la nouvelle mandature. Le précédent, sous la précédente mandature, a été blackboulé, retiré suite à une mobilisation d'abord des associations, mais au-delà de toute la société civile, parce que justement, il mettait à l'encan tous les espaces remarquables, toutes les zones patrimoine collectif inaliénable de cette terre aux mains des promoteurs immobiliers. Là, on est sur une autre procédure, avec une concertation qui a duré sur 2 ans, concertation à laquelle nous avons tous participé de manière très loyale durant ces 2 années. On a participé à tous les ateliers d'élaboration de ce PADUC. Tant que nous en étions au niveau de la philosophie générale d'ensemble, du rédactionnel, de définir vraiment la philosophie, la doctrine de ce que allait être ce PADUC, tout s'est déroulé pour le mieux dans les meilleurs des mondes. Comme lors du précédent PADUC, dès lors qu'on est entrer dans sa traduction spatiale, dans la cartographie. Par contre, les difficultés se sont fait jour et on a assisté à des virages à 180 degrés dans ce qui était prévu ce PADUC jusqu'au mois de mai. C'était parfait, on avait acté notamment et sur les espaces remarquables et sur ces fameuses ZNIEF, ces zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui étaient de par l'ancien schéma territorial d'aménagement inconstructible de fait. On a vu un virage à 180 degrés et ces zones aujourd'hui sont rendues constructibles dans ce PADUC par la cartographie qui est en train de faire jour. Donc on est là presque en date butoir et on est encore à batailler sur ces zones-là.
Donc alors attendez, Pierre-Laurent Santelli, juste pour comprendre, on était en train de parler de loi littorale, on a glissé vers le PADUC qui est une sorte de traduction corse régionale de ce que pourrait être le développement durable, c'est dans le terme PADUC, hein, d'un territoire. Et là, les ZNIEF, c'est-à-dire les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, comment est-ce qu'elles s'articulent avec la loi littorale ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui, alors que la loi n'a pas été révisée, on peut rendre constructibles des terrains qui ne l'étaient pas ?
Le PADUC permet, de par sa définition, d'aménager certains articles de la loi littorale et notamment leur traduction spatiale sur le territoire. Il y a dans cette cartographie bon nombre de zones qui sont inconstructibles de par leur classement, soit en espace remarquable, soit en ZNIEF, hein, ces fameuses zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, qui existent dans toute la France. Ici, il y a un particularisme régional. Ces ZNIEF, de par le schéma d'aménagement de la Corse qui a été élaboré en 1992 par les services de l'État, rappelons-le, hein, rend ces ZNIEF inconstructibles. Donc, on a voulu les sanctuariser, voyant les enjeux à l'époque en 92, hein, le préfet, ses services, en concertation avec les maires, ont produit des atlas des espaces remarquables et en parallèle ont rendu les ZNIEF inconstructibles.
Voilà, donc là, on n'est plus uniquement dans le cadre de la loi littorale, c'est-à-dire que des ZNIEF, il y en a un petit peu partout sur le territoire de Corse et du continent et ailleurs aussi. Donc, ce sont des territoires inconstructibles dans lesquels on a procédé à un inventaire qui montre quantité d'espèces remarquables, que ce soit de la faune ou de la flore.
Exactement. Donc, ces zones sont vraiment un réservoir de biodiversité d'une richesse incommensurable. On y recense de multiples espèces, tant floristiques que faunistiques. C'est des réservoirs vraiment d'une richesse incomparable. Et fort logiquement, le législateur a voulu déjà, même en France, elles ont un degré de protection assez élevé. Ici, on a voulu renforcer encore plus en les rendant inconstructibles de fait, de manière pérenne. Donc, on avait ce classement qui permettait, et devant les tribunaux administratifs, dès lors qu'il y avait une volonté de construire sur ces zones-là, on avait ce recours au travers du schéma d'aménagement de la Corse. Et chaque fois que ça, on a dû aller devant le tribunal, le tribunal a donné raison aux associations pour ce qui est de l'inconstructibilité de ces zones.
Donc c'est ça qui est battu en brèche aujourd'hui par le PADUC qui est en discussion.
Donc c'est un paradoxe. Le PADUC qui se veut vraiment un document avec une philosophie dans l'intitulé même de développement durable, se révèle être moins protecteur que ce schéma d'aménagement de la Corse de 92, puisque ces nefs qui étaient vraiment sanctuarisées dans l'ancien document ne le sont plus du tout. Elles sont rendues constructibles pour la plupart. Donc on voit bien l'enjeu et le combat qu'on a à mener face à ces nouvelles mesures. Je veux rappeler que je parlais tout à l'heure de lobbies qui se sont mis en route. Au mois de mai, il était écrit clairement dans le projet de PADUC, dans le livre blanc, que ces nefs allaient être inconstructibles. Or, dès lors qu'on est rentré dans la cartographie, cet article a complètement disparu et ces nefs peuvent être demain livrés aux promoteurs et rendus bétonnés de la sorte. À l'examen de la cartographie de ces cartes, en superposant les limites de ces zones en y mettant dessus le calque de projets immobiliers de grande envergure dont on a eu connaissance et qui sont dans les cartons, on voit qu'au centimètre carré près, les zones proposées au déclassement correspondent à la cartographie de ces constructions à venir. Donc, est-ce que ce n'est qu'un hasard ou une coïncidence? Bon, nous, on a la réponse maintenant à d'autres de s'y pencher.
De quel type de construction est-ce qu'on parle, Pierre-Laurent Santelli? Est-ce qu'il y a un besoin de logement pour les Corses? Est-ce qu'on parle là de construction à vocation touristique? Est-ce qu'on parle... De quoi s'agit-il?
Donc, il y a un besoin de logement, ça, c'est une certitude. Les Corses ont du mal à se loger et à avoir accès à la propriété, justement à cause de cette spéculation qui fait flamber les prix, qui empêche tout citoyen ici d'acquérir un bien immobilier ou de construire. Les constructions dont on parle ne sont pas des logements sociaux ou des petites maisons individuelles, il va sans dire. On est sur une autre échelle de valeur, dirais-je. On parle toujours là d'opérations immobilières de grande, très très grande envergure, pharaonique même, vraiment à des échelles, on parle de maisons de 400 mètres carrés à 20, 30 millions d'euros à la vente. On parle de projets immobiliers de 100-130 hectares livrés à la construction avec golf, hôtel de très très grand standing, maison dont je vous parlais. Donc on est sur des projets qui ne sont pas pour le citoyen lambda, mais bien pour une certaine clientèle qui a les moyens de venir ici investir, passer 2 mois l'été et après vaquer à ses affaires le reste du temps.
Main basse sur une île, qu'est-ce que c'est ça? Dume Gambini.
C'est un film que nous avons réalisé avec la voix de Tino Rossi au début, comme on peut l'entendre. Au ciel du midi, etc. Il y a un beau pays. Et voilà, ça c'est le coin de paradis. Mais ensuite, il y a les bateaux qui arrivent, comme on peut le voir sur ces images. Et puis le nombre de résidents secondaires et les gens qui s'installent sur les plages, de plus en plus nombreux. Et là, donc, on peut voir les résidents secondaires. Elles ne sont pas à petit prix. Hein. Et on voit le pourcentage de résidents secondaires. 80%, 74%, 74,2%, 74%. Palas, Calgajo, Lalumio, Calcatoio, Serra di Fer, Belvedere, Campolor, etc. Voilà, par exemple, ici, une... Elle n'était pas encore terminée à l'époque, aujourd'hui elle est terminée. Elle est en plein à 33 mètres de la mer, donc en plein dans le DPM. Voici celle-ci, par exemple, mise en vente, 8 480 000. Et nous pensons qu'une des causes de la violence, c'est dû à l'immobilier. Voilà ici, par exemple, une bâtisse qui est construite en plein sur le DPM. En voici une autre qui arrive sur le bord de l'eau. Voici un autre, il y en a tout le long, là, c'est des hôtels-restaurants. Le problème aussi des résidences secondaires, comme ici, sur cette image, c'est que chacun fait son petit mur, et finalement, les gens ne peuvent même plus aller à la mer. C'est-à-dire qu'on fait la villa, on fait le mur, on fait notre villa, on fait le mur, etc. Et on voit même des plages privées. Plages privées, c'est mentionné, regardez sur ces images, il y a bien écrit « plage privée ». Alors que dans la loi, c'est interdit, on ne peut pas avoir une plage privée. C'est le DPM, il appartient à tout le monde.
Qu'est-ce que vous appelez le DPM ?
Alors le DPM, c'est donc tout ce qui concerne le domaine public maritime. C'est-à-dire c'est public, ça appartient à tout le monde peut aller sur le DPM. Et heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourrait plus aller à la mer. Hein. Mais malheureusement, avec des constructions, bien, il commence à y avoir des endroits où on ne peut plus aller à se baigner. Voici d'autres projets ici, hein, Saint-Nicolas, au Padolé, au Cap Corse, etc. Sarri-Solensa, sans six logements, sur des zones inconstructibles, etc., etc. Moriane, y voici d'autres projets en images. Donc ça, c'est un petit film que vous pouvez aller voir sur le site de l'association ou les ventes. Comme ça, vous verrez un peu mieux de quoi il s'agit. Et ça, c'est les groupes culturels aussi, qui depuis des années chantent notamment des chansons sur la terre et sur ce phénomène, y compris malheureusement, de mafia qui risque de s'installer sur l'île.
Stampado e noi poteremo pretendere che sa terra mai più non sia né a compra né meno a vende
o chiedo vita ci ampara che non bastano i sogni e rame e chi spesso presente amaro di rivolta di spera di sangue chi è lotte non so mai vinede e vittorie non si cantano mai e so tutte speranze traide chi ci va a mugliare.
Oh là, j'ai quelques documents. Je suis en train de grouper des documents sur les lois littorales, sur ou les ventes, parce qu'il y a le Paduc chez nous en Corse qui se prépare. Et donc j'ai retrouvé des vieilles phrases justement de certains de nos hommes politiques sur le premier Paduc qui a été rejeté d'abord par la population et ensuite par les élus. Vous savez, j'ai rencontré des gens de Porto Vecchio, des people, hein, et cette personne m'a dit, vous savez, je suis arrivé dans la région de Porto Vecchio il y a une trentaine d'années, c'était bien, nous avons fait notre villa, etc. Maintenant, il y a des villas partout, on n'est plus chez nous. Donc ça m'a assez étonné, et ça donne une idée un peu de ce qui se passe dans ce pays, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, et de alors bien sûr beaucoup plus sur le littoral hein, que dans l'intérieur, où il y a entre 70 et 80% de résidences secondaires. qui ne sont habités que deux mois à l'année, quelquefois reloués. Enfin bref, c'est pas très très clair tout ça. Hein. Et donc, effectivement, la population en a un petit peu marre. Et comme il y a ce PADUC, donc ce plan actuellement, qui sera plus général, ça ne sera pas ça. C'est aussi la culture, c'est aussi l'agriculture, le tourisme, et un peu tout, bien sûr, hein, c'est ce qui est très bien. Donc on essaye de donner notre point de vue citoyen. Et c'est vrai que ça ne plaît pas trop à nos élus. Parce que nos élus, vous savez, il existe toujours. Les dinosaures ont disparu dans le monde entier. Ben ici, on en a toujours. Hein. C'est des gens qui n'accepte pas que le citoyen de base puisse à un moment dire « Vous savez, ça ne nous convient pas. C'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, actuellement. »
Mais quoi,
à propos des SNIEF, ben, ça, par exemple, que les SNIEF de type 1 deviennent constructibles. Parce que les SNIEF de type 1, en Corse, depuis 1992, ne sont pas constructibles. On gagne des procès, etc. Et certains, et parce qu'il y a de grands projets dessus, et parce que nous savons qu'il y a des projets, puisqu'ils y étaient déjà avant, donc c'est pas uniquement parce que c'est des SNIEF. Hein.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous imaginez, et surtout, qu'est-ce qui existe déjà? Parce que là, vous nous avez parlé de deux choses qui sont un peu différentes. Vous nous avez parlé du fait que les villas se sont mises à pulluler sur les côtes. Or, il y a en principe une loi qui interdit la construction...
Oui, il y a plusieurs lois. Il y a même une loi sur le pourcentage, qui normalement empêche de faire un certain pourcentage. Vous savez, nous, là où on est très critique au début, j'avoue, y compris moi, hein, on commençait à critiquer, et même on avait des petits rappels de quelques continentaux que l'on croisait en disant « Mais après tout, ce sont les Corses qui vendent. » Et pour eux, c'était claque, terminé, vous n'avez qu'à pas vendre. Bien. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le prix des terrains n'est plus du tout le même qu'à l'époque. Moi, je connais des gens en Balagne, un ami dernièrement, qui me disait « Mais il arrive des gens avec des petites mallettes, ils vont trouver les vieux bergers, en leur disant « Non seulement on vous achète votre terrain, mais en plus on vous fait votre villa dessus. Vous allez être tranquille, regardez, vous êtes enfin, vous avez une soixantaine d'années, 70. On vous fait la villa et en plus on vous achète le terrain. » Mais c'est difficile de dire non là-dessus. Alors ça, c'est la première étape. Puis ensuite vient la deuxième étape. La deuxième étape, c'est un maire, parce que la loi est comme ça, doit donner un avis favorable à cette construction. Mais qui fait le contrôle de légalité? Qui derrière est là pour dire « Mais attendez, vous avez donné un permis, d'accord, mais c'est inconstructible. Donc il n'est pas question que ce permis de construire passe. C'est l'État, par le biais du préfet. » Donc vous voyez bien que ça me fait penser, d'ailleurs en ce moment, où on parle sur le continent des inondations, etc., des gens qui ont eu même des morts, hein, et on accuse, j'ai entendu un peu à la télé en ce moment, tel maire du coin qui a donné le permis. Ce qui est peut-être vrai, il y a déjà une première étape à franchir, et il y a effectivement une illégalité de ce maire. Mais derrière, le contrôle de légalité, c'est pareil sur le continent, c'était à l'État et au préfet de le faire. Et ça, bizarrement, on en parle très très peu dans les médias de la responsabilité de l'État. Dès qu'on touche l'État, silence radio, circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'y a pas de responsable. C'est quand même étonnant. Et puis la troisième raison, vous en êtes peut-être aperçu, malheureusement, puisque nous sommes en Corse, c'est que malheureusement, on ne parle plutôt que de cela dans les journaux, des incendies, des plasticages, voire des meurtres, et non pas des débats importants, parce qu'il y en a eu aussi, et là, malheureusement, il y a très peu de journalistes pour venir, c'est qu'il y a la violence. Et on s'est amusé, si j'ose dire, entre guillemets, avec les associations, de superposer les cartes de l'immobilier et de la violence. Et on s'est aperçu que 80% de ces cartes correspondaient. Donc ça veut dire que l'immobilier et la violence, c'est en partie, complètement... Alors le pourquoi exactement serait difficile d'analyser, hein, parce qu'il y a des cas très différents. Hein. Ça peut être le particulier du coin, ça peut être une certaine mafia, ça peut être etc., etc. Mais le fait est que lorsqu'on superpose les cartes de la violence et les cartes de l'immobilier en général, surtout quand c'est l'immobilier, pas uniquement des villas, hein, des complexes, des choses plus importantes, cela correspond. Donc c'est vrai que ça nous interpelle, pour répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à deux niveaux. Non seulement il y a des résidences secondaires, etc., qui ne sont pas pour nous des choses qui produisent. Hein, ça ne produit rien, une villa secondaire. La personne s'en va, il ne reste plus rien. Il vaudrait mieux donner des aides à nos agriculteurs, à nos étudiants, etc., plutôt que d'aider ce genre de choses. Mais en plus, il y a la violence qui arrive derrière. Et c'est pour cette raison que c'est très grave pour la Corse.
Dume Gambini, vous avez eu dans vos associations, votre collectif d'associations, très souvent recours à la cartographie et vous avez des résultats tout à fait intéressants. J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples de choses que vous avez découvertes, repérées, pointées.
Alors,
aux cartes.
D'abord, les cartes nous permettent de superposer et de voir si tel endroit qui n'est pas constructible, par exemple, il y a des constructions dessus, etc. Il y a aussi les possibilités aujourd'hui avec les satellites de savoir ce qu'il en est, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Par exemple, pour la Testa Vintilegne, c'est une colline en Corse du Sud qui, on en a parlé il y a 40 ans, donc les autonomistes de l'époque se sont battus pour la Testa Vintilegne parce qu'il y avait des très très grands projets à l'époque, se sont battus là-dessus, et on n'en a plus entendu parler pendant des années. Et bizarrement, tout d'un coup, il y a des projets. Alors nous, évidemment, on a déjà superposé les cartes de l'époque et celles d'aujourd'hui, on s'est aperçu que, bah, tiens, c'est comme ça, ça correspond un petit peu. Et puis non seulement ça correspond, mais on s'est aperçu que dans certaines cartes, donc les mêmes, des cartes officielles, les surfaces n'étaient pas les mêmes. Après, il y a les cartes qu'on ne vous donne pas, c'est-à-dire que là où on a énormément de difficultés, nous, à titre associatif, c'est lorsqu'on écrit à une mairie, nous sommes association agréée, on leur demande, voilà, on aimerait bien avoir votre PLU, on aimerait bien avoir la carte de tel truc, etc. Alors, soit on la reçoit après le procès, soit on reçoit le PLU, mais bizarrement, il manque juste la page qui nous intéresse. Soit on le reçoit sur CD, mais bizarrement, il est mal gravé. Ah, on l'a mal gravé, vous savez, nous, l'informatique, c'est nouveau, on ne sait pas trop. Soit la photocopieuse est en panne. Soit on demande une réunion pour venir à la mairie en discuter, ça nous est arrivé il y a un an en Corse du Sud, et on dit au maire, voilà, on passe vous voir vendredi, par exemple, vers 4 heures. Mais parfait, vous êtes les bienvenus. Et puis on arrive vendredi à la porte de la mairie, un petit mot. La mairie sera fermée à partir de jeudi soir. Mais ça existe, ça vous fait peut-être rigoler, mais ça existe. Alors, encore une fois, heureusement, c'est pas tous les maires. Mais si vous les groupez un peu, il y a quand même beaucoup de mauvaise foi, quand même, si vous groupez un peu tout ça. Hein, et sans compter la pression qui monte, les pressions amicales. Hein. Tu sais, je te fais savoir de la part d'un tel que là-dessus... Enfin, hein, tu fais comme tu veux, mais il vaudrait mieux, patron, que tu en parles, etc. Ça existe, ça. Hein. Sans compter ceux qui ont eu des choses plus directes, et ça, ce n'est pas à moi de vous en parler, puisque ça serait à celles dont certains ont déposé, d'ailleurs, plaintes, etc. On n'a toujours pas de nouvelles, pour qui ça a été encore plus loin.
Alors, madame Salotti, vous avez déclaré dans le Canard enchaîné que je voulais, moi, racheter les terrains des Agriates.
Non.
Mais si, il y a une source.
Non, non, vous l'avez
dit. Ici.
Non, non.
Je la donnerai à la conférence de presse.
Oui, non.
Paradoxalement, c'est comme si vous me demandiez de racheter la Tour Eiffel. Parce que vous savez parfaitement. Et vous avez.
Le moyen veut dire. On va laisser le chef Salotti répondre, s'il vous plaît.
Il y a des gens dangereux. Les gens les plus dangereux sont ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais il y en a encore des gens qui sont encore plus dangereux. Ce sont ceux qui font semblant de ne pas savoir.
Et quand vous avez dit,
au Canard enchaîné que je devais racheter les terrains du conservatoire, c'est moi qui les ai achetés.
Bon, Michel Salotti, répondez, s'il vous plaît.
Et puis après, on s'expliquera avec Maria. Autrement, on fera un face-à-face tous les deux.
Bon, ça ne va pas tourner au règlement de compte, sénateur.
Oui, d'accord.
On va essayer d'être courtois et de répondre.
Maintenant,
du matin au soir, on rencontre des gens qui nous disent, par exemple, mais le conseil municipal de tel village s'est réuni et ils ont décidé à l'unanimité que tel espace remarquable n'était plus un espace remarquable et devenait constructible. Les gens sont persuadés que la loi, c'est ça. Donc il y a quand même, et je pourrais vous en citer d'autres, donc il y a quand même un problème, là aussi, d'information du public qui ne se fait pas très bien. Le deuxième aspect, c'est lorsqu'il y a ou des procès ou des choses sur le terrain et qu'il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire, on vous annonce, par exemple, où les ventes attaquent un permis légal à tel endroit. Alors que le permis est illégal. Alors ça, c'est le jour du procès lui-même. Et puis vous savez, les procès, on vous dit à la fin du procès qu'on vous donnera dans quelques jours le résultat. Donc le jour même, on ne sait pas. Et bizarrement, cette phrase, elle a été peut-être dite, et je comprends, par l'avocat de la partie adverse, qui lui, évidemment, va dire « Mais mon client a un permis tout à fait légal. » Bon. Et donc ça devient le titre de la presse. Et on apprend, quelques temps après, que... Justement, c'était complètement illégal. Eh bien, bizarrement, on ne retrouve pas dans la presse, à la même dimension, ce résultat, y compris lorsqu'on avertit la presse que, voilà, le papier avec le résultat du tribunal.
Saletia, point d'attraction pour tous les plaisanciers qui accostent à Saint-Florent. Nous voici au port privé. Un ouvrage réalisé le long des berges de l'Aliso, en plein espace remarquable. Lors de l'élaboration de l'Atlas il y a 10 ans, était-ce à protéger ? Des bassins ont été créés. Comment cela a-t-il été possible ? Nous avons tenté de le savoir auprès du maire.
Moi, je cherche à expliquer s'il y a eu pour le port privé de l'Aliso un avis de la commune de Saint-Florent, une demande qui a été faite, une enquête publique.
Je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Non, c'est plutôt c'est d'abord les services de l'État.
On n'a pas à consulter la mairie quand on construit un port.
Pas forcément.
D'accord.
Pas forcément, c'était un privé. C'est plutôt la mairie qui consulte les DE souvent.
Oui.
C'est du ressort de l'État.
D'accord. Vous voyez quelque chose à ajouter ?
Je dis que c'était à votre entière disposition, sauf sur un secteur. Polémiquer pour polémiquer, ça sert à quoi ? Honnêtement.
Au nom de...
Pas grand-chose.
Ah, ça paie quand les autres sont responsables, ou non ?
Même pas. Hein. Ça y est, lorsqu'elle m'était dite, elle est dite.
La messe est dite, mais les plus embarrassés, ce sont les services de l'État. Pour briser le silence, il nous a fallu solliciter directement le préfet de Corse. Un mail nous parvient tardivement. C'est l'autorisation, en 2003, de la direction de l'agriculture et de la forêt. Un confortement de berges avec des pieux en bois pour créer sur une parcelle inondable un parking à bateaux limité à la saison estivale.
Mais Doumé Gambini, tout ce faisceau à la fois de mauvaise volonté, de pression amicale ou moins amicale, de documents incomplets ou voire transformés, est-ce que vous pensez que progressivement, ça brouille les pistes au point que les services de l'État ne seraient pas en mesure de...
Non, je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'au début, nous-mêmes, lorsqu'on a eu ce genre de choses, hein, soit on ne recevait pas le papier, soit il était un peu trafiqué, soit on nous faisait payer un prix fou pour des photocopies où on s'était trompé entre les euros et les francs. Bon, bref, on en a eu des vertes et des pas mûres. Hein, il faudrait toute une émission pour parler rien que de cela. Ceci étant, un moment, on s'est dit, effectivement, l'État n'a peut-être pas les moyens. Ils sont pas assez sur le terrain. Certains syndicats nous l'ont dit. Hein, vous savez, il faudrait aller dans toutes les communes, vérifier. On a dit, mais on va vous rendre service. On va faire des échanges. Et nous, on va vous dire, lorsqu'on sait qu'à tel endroit, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, on peut très bien vous le dire. Et bizarrement, alors qu'on a averti les services du préfet, on s'est aperçu par la suite qu'il n'y avait aucun changement. Et pour en revenir sur le trait dont on parlait tout à l'heure, le problème que nous avons actuellement, le fameux trait de carte, enfin les cartes, les lignes, hein, un des problèmes que nous avons actuellement, nous avons averti les gens et les services de la région, c'est qu'un trait qui paraît très simple comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire une carte, on a analysé, ça fait 200 mètres sur le terrain. Donc vous voyez bien qu'on peut très bien... Et donc on a demandé à ce que les proportions soit respecté pour que toute personne qui lise un trait de carte ou quoi sache réellement où il va et si telle propriété est comprise, pas comprise, etc., entre un espace remarquable et un autre qui ne l'est pas, par exemple. Et je peux vous citer un autre cas par rapport à ça, par exemple, qui est le fameux sentier du littoral, qui normalement, ça serait merveilleux, pourrait faire le tour de toute la Corse. Imaginez, les gens viendraient de très loin pour faire cette balade autour de la Corse. Malheureusement, il y a des endroits où on ne passe pas. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui font leur villa la première année, la deuxième année on fait un mur, et des fois c'est des murs qui arrivent jusque sur le bord de la mer, et donc on est bloqué, on ne peut pas passer. On a même eu, je ne dirais pas de nom, un élu qui lui a remonté ce sentier, alors qu'il a sa villa, a remonté ce sentier sur la montagne et ça redescend de l'autre côté. Alors là aussi, je vais vous en apprendre une bonne, parce que les journalistes, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que vous ignorez. Comment, aujourd'hui, vous voulez prouver que, par exemple, à cet endroit-là, un, on pouvait bien faire passer le sentier littoral, et que deux, la distance, effectivement, entre la fameuse villa et la mer est de telle valeur ? Je vais vous dire comment ça se passe. Nous, au début, on était un peu naïfs. On s'est dit, aujourd'hui, il y a des satellites, il y a tout ça. On va calculer au mètre près, et peut-être même au centimètre. Et on a été au tribunal. Et le tribunal nous a dit, c'est bien beau ce que vous avez fait, y compris même si vous le faites avec quelqu'un, un professionnel attitré, hein, un géomètre ou autre, ce n'est pas reconnu par le tribunal. Il faut un véritable calcul sur le terrain, mais, tenez-vous bien, pour faire le calcul sur le terrain, il faut l'autorisation du propriétaire du terrain. Donc voyez comme les lois sont bien faites. Hein. Autrement dit, on n'a rien pu faire. À un moment, on a failli même louer, parce qu'elle était en location, cette villa. On s'est dit, on va la louer avec un copain qu'on va faire venir de Nice, de Marseille ou d'ailleurs. Et puis on va en profiter pour mesurer. Je ne sais pas si ça aurait marché, mais pour vous dire, c'est pour cette raison que lorsqu'on analyse réellement ce qui se passe sur le terrain, on comprend qu'il faut vraiment changer de démocratie. Alors, il y a des maisons tout à fait légales, bien sûr. D'ailleurs, lorsqu'on parle des associations de protection de l'environnement, je vous mets au défi de nous trouver une seule maison pour laquelle on aurait ou écrit ou attaqué en justice, etc., et qui est construite dans une zone constructible. Ça n'existe pas. Nous, lorsqu'on sort, et d'ailleurs, il y en a plein, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui nous appellent à tel point. Ça prouve aussi quelque part que l'État, quelque part, il y a un manque d'État. Les gens nous appellent pour nous engueuler. Du style, que fait ou les ventes à tel endroit, il y a une construction alors que ne devrait pas y être. Vous vous rendez compte? Les gens, au lieu d'appeler le préfet, de payer les services officiels, appellent ou les ventes en nous disant, mais que fait ou les ventes? Comment ça se fait qu'à tel endroit, il se passe ou une pollution ou une... C'était le cas pour le Vase, c'était le cas pour l'amiante, c'est le cas pour certaines constructions. Que fait ou les ventes?
Mais Domé Gambini, qu'est-ce qu'elles vont faire, vos associations environnementales, si la loi... et réviser, comme apparemment souhait en est exprimé de plus en plus.
Hein, et d'ailleurs, on s'est consacré à ce PADUC, on a dit qu'on était partant pour les réunions, on a essayé, alors que ça nous coûte, bien sûr, hein, du temps, de l'argent, on a été à toutes les réunions, et on s'est dit, ce PADUC, vu que dès le début on nous annonce, on va aller sur le terrain, on va demander aux associations, on va demander à la société civile son avis, et on va tous ensemble élaborer ce PADUC, on s'est dit, après tout, banco, jouons le jeu. On verra les résultats dans pas très longtemps, et en fonction de ça, effectivement, nous prendrons une décision.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 01 56 40 36 72, et notre adresse Terre à Terre France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage Cédric Chatelu, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.